Première photo prise par curiosité. Voilà, un selfie de curiosité et quelques vues du terrain qu'il a pu rencontrer. Là, vous voyez ses traces. Il s'est déplacé, là, hop, hop, hop. Alors, oui, il s'est déplacé, il se déplace seul. Il est autonome. On a développé des logiciels de reconnaissance de forme qui lui permettent de se déplacer de façon totalement autonome. Pourquoi ? Les ondes radio, pardon, pour aller de la Terre à Mars, ça prend plusieurs dizaines de minutes. Donc on ne peut pas piloter un engin qui est sur Mars à partir de la Terre et lui dire, tu freines parce que tu as un rocher devant. Il sera rentré dans le rocher avant que l'information ne lui revienne. Donc il faut qu'il soit autonome. Et les déplacements sont totalement gérés par le rover. Alors, un petit historique, avant d'aller plus loin, un petit historique des missions martiennes. Donc, comme je vous l'ai dit, on a eu les survols, ce que j'ai appelé les sondes. On a eu les orbiteurs, un peu plus sophistiqués, les atterrisseurs, puis les rovers. Là, l'homme, il ne se satisfait pas de ça. En plus, il veut voir ce que c'est que les matériaux, il veut pouvoir faire des analyses beaucoup plus complexes que ce qui peut être fait par un rover. Le rover, il fait des observations et il fait des mesures, mais ça reste relativement rustique. On ne peut pas embarquer des laboratoires là-haut. Donc ça reste relativement rustique. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est retrouver sur Terre des échantillons, récupérer des échantillons. Une mission a été faite, c'est Phobos, par les soviétiques. Malheureusement, ils ont perdu la sonde. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas d'échantillon. C'est quelque chose qu'on compte faire dans les années 2020. Voilà. Alors, avec les échantillons, l'homme, il n'est toujours pas content, toujours curieux. Donc, on parle de mission humaine vers Mars. On veut aller voir exactement ce qui se passe là-haut. Ce qui n'empêche qu'il a fallu faire tout ça. Parce que pour aller sur Mars, il faut savoir où on met les pieds, c'est le cas de le dire. Donc, il faut déjà avoir fait toute une série d'investigations et d'observations pour dire, on y va et on sait exactement ce qu'on veut faire. Alors, la station spatiale permet de gérer, d'anticiper sur les problèmes physiologiques qu'on peut rencontrer dans l'espace. Alors, déjà sur la vie courante, le cycle de l'eau. Pour six personnes qui sont à bord de la station, il faut récupérer l'eau. L'eau, on ne peut pas l'amener systématiquement de la Terre, bien sûr, et on en monte un peu. De toute façon, on est on n'a pas là-haut. Donc, on a un stock d'eau, mais ce stock d'eau, il faut l'épurer. Il faut le remettre en circuit, il faut le recycler. Donc, on a tout un système de recyclage de l'eau, de façon à pouvoir continuer à prendre des douches, à se laver les dents, et ainsi de suite, et surtout à boire. Donc on recycle l'eau et on boit. On traite également, on supprime le CO2 et on régénère l'oxygène, le gaz. Je vous ai parlé des problèmes physiologiques. Voilà les toilettes de l'espace. Pourquoi est-ce que c'est apparemment si compliqué ? Là-haut, il y a zéro gravité. Donc si on ne prend pas les mesures nécessaires, on va avoir les urines, les matières fécales, tout ça va se balader dans la station. Donc il faut s'en occuper, sérieusement. Donc voilà, donc, vous avez des aspirateurs et ainsi de suite. Donc tout ça prépare un voyage de plusieurs mois vers Mars. Il faut aussi s'intéresser, au-delà des aspects physiologiques, aux aspects psychologiques. les gens vont être enfermés dans un mouchoir de poche, à 6, pendant des mois, avec le stress qu'on peut avoir dans ces cas-là, parce qu'ils partent, mais vont-ils arriver sur la bonne planète, un tas de choses. Est-ce qu'on va arriver à atterrir correctement? Bon. Donc, on prépare les équipages à ces aspects psychologiques et de travail aussi. Il va falloir qu'ils travaillent. Il peut y avoir des réparations à faire. Il y en a déjà sur la station spatiale, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas et pendant le voyage et après l'atterrissage sur Mars. Donc, sous l'eau, on a des simulacres d'engins spatiaux dans lesquels on fait travailler les gens. Ils sont dedans et puis ils sortent, ils font de l'extravéhiculaire de temps en temps pour faire des semblants de réparation. Alors pourquoi sous l'eau? C'est parce qu'avec la poussée d'Archimède, on recrée à peu près les conditions de l'absence de gravité dans l'espace. On a également des missions de plusieurs mois, voire années. Il y en a une franco-russe actuellement. De survie dans des grottes. Donc les gens sont placés dans des cavités sous terre et ils vivent dans des conditions qu'on essaie de rendre le plus proche possible de ce qu'il y aura dans l'espace. À la gravité près. Mais enfin, ils sont en scaphandre et ils font des simulacres de sortie, de réparation, des choses comme ça. Et surtout, ils vivent entassés, là, promiscuité pendant des mois. Voilà. Donc ça c'est un profil de mission. On commence par lancer des fusées qui vont emporter le matériel en orbite basse ou l'emporter sur Mars. Par exemple, ces éléments-là viennent des fusées. Hein, celui-là. Celui-là aussi, d'ailleurs. Et là, il y a une flèche de retour parce que là, c'est la fusée de retour qui est sur Mars et qui va servir au retour. Alors, vous voyez que le voyage, il dure 360 jours, quelque chose comme ça. Hein. 180 à l'aller, 180 au retour. Donc, on a presque un an de voyage. Et puis, on a prévu 500 jours sur Mars. On pourrait faire moins puisque 500 jours... Plus 360, ça fait plus que l'espace entre deux fenêtres de tir dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais on saute une fenêtre de tir de façon à tirer le maximum d'enseignement au prix où est le voyage, tirer le maximum d'enseignement d'un voyage sur Mars. C'est pas la peine de monter là-haut, ça coûte des milliards d'euros. C'est pas la peine de monter là-haut si c'est pour rester 8 jours. Il faut récupérer le maximum d'informations. Donc un séjour de l'ordre de 500 jours en espace, dans l'espace. Voilà la fusée. Et voilà ce que serait le projet sur Mars. Vous avez ici la station de vie. Vous avez des rovers pour se déplacer, aller faire des observations et pour atteindre la fusée de retour qui, elle, reviendra sur Terre, ça, bien sûr, restant sur Mars. Voilà. Alors, curiosité. Pourquoi je vous ai mis ce texte-là? Il faut savoir que les agences spatiales, soit européennes, américaines, demande à des lycéens de donner des noms de baptême aux sondes, aux rovers, aux différents éléments qui sont envoyés dans l'espace. Là, je vous ai mis le texte qui a été soumis par une jeune fille de 16 ans, lycéenne américaine, pour justifier sa proposition pour le nom de Curiosity. Elle a été retenue sur la base de ce texte-là. Alors, quelqu'un veut-il lire ce texte? qui pour moi est très important. Si vous avez retenu une chose à retenir aujourd'hui, puisque tout ce que je vous ai dit, c'est ça. Qu'est-ce qui nous dit ça? Allez, jeune homme, vas-y.
La curiosité est une flamme éternelle qui brûle dans tous les esprits. Elle me pousse hors du lit le matin et m'interroge sur les surprises que la vie me montrera en ce jour. La curiosité est une force tellement puissante. Sans elle, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, je me demandais pourquoi le ciel est-il bleu? Pourquoi les étoiles scintillent-elles? Pourquoi je suis? Pourquoi suis-je-moi? Et je m'interroge encore. J'ai tellement de questions. La curiosité est la passion qui nous pousse dans notre vie de tous les jours. Ce besoin de poser des questions, de s'émerveiller, a fait de nous des explorateurs et des scientifiques. Bien sûr, il y a beaucoup de risques et de dangers. Malgré cela, nous continuons toujours à nous interroger, à rêver, à créer et à espérer. Nous avons déjà tant découvert sur le monde, mais nous en savons en fait tellement peu. Nous ne saurons jamais tout ce qu'il y a à savoir, mais grâce à notre flamme de curiosité, il n'y a que le monde.
Oui, bien, pardon. On va sortir.
Nous avons tant appris.
Bon, soyez curieux, ne soyez pas blasés. Ne vous dites pas, ça y est, je sais tout, c'est bon, je peux aller me promener. Soyez curieux, cherchez à comprendre. Faites un pas en avant, vous stabilisez et vous projetez en avant sur une nouvelle recherche, toujours basée sur la curiosité. Il faut avoir soif de savoir. Soyez curieux. Merci. Merci. Des questions? Oh, je n'ai pas été aussi clair que ça, c'est pas possible.
Le projet là, que vous nous avez présenté, le dernier, c'est le même temps qui...
Ah oui. C'est la période, dans le temps où tu peux tirer ta fusée en étant sûr qu'elle va arriver au bon moment sur la planète. Alors ça se passe pour Mars, c'est à peu près tous les 2 ans.
Et comment ils vont faire pour qu'ils se un jour là-bas alors qu'ils avaient tant de temps?
Ils s'abriteront dans l'habitat. Alors, deux points importants par rapport à la survie dans l'espace. C'est qu'aujourd'hui, les aspects rayonnement, on n'a pas trouvé les solutions. Il faut qu'on trouve les matériaux qui vont permettre à des hommes d'être totalement irradiés durant leur voyage et puis leur séjour sur la planète Mars, irradiés par les rayonnements en provenance du Soleil. Donc il y a ce point-là, et puis la capacité à faire atterrir des engins de plusieurs tonnes sur la planète également.
Pratiquement 2 ans de nourriture.
Oui.
Il faudra plusieurs missions humaines pour arriver à savoir comment faire. On le voit dans Seul sur Mars. Le gars, il utilise les matières fécales, les produits, pour arriver à faire pousser des choses sous abri. Donc ça, on dit oui, c'est comme ça qu'il faut faire, mais enfin, d'un point de vue pratique, on ne sait pas encore faire. Donc on embarque tout, c'est ça que vous voulez dire. Donc ce sont des aliments lyophilisés, pour sachet. Si. Oui, le problème c'est les ramener, les récupérer. Ils peuvent les récupérer, mais c'est ce qu'il faut. Les ramener, ils apporteront à la fusée de retour des matériaux. Il les mettra dans les conteneurs dans la fusée et puis la fusée nous partira.
Mais aujourd'hui,
je n'ai pas été chercheur au Vlex, je travaillais chez maintenant Airbus Espace. Donc ces photos là, notre professeur les aura.
Juste l'ISS en ce moment, là, comment ça se passe? Quand il y a des personnes qui sont sur l'ISS, il y a des roulements qui dépendent.
Oui, c'est très variable, ça dépend des missions, parce qu'il y a des chercheurs qui vont à bord. Ce ne sont pas tous des cosmonautes. Il y a des spécialistes dans différents pays. Et donc, je pense que les missions de 3 mois, 6 mois, 1 an, il y a des gens qui sont là-haut depuis plus d'un an.
Ils sont en Ukraine, c'est vrai.
C'est vrai, ils ont décidé de lancer. Donc, il y a beaucoup de résidus dans l'espace. Il y a des corps étrangers qui circulent parce qu'il y a des fusées qui n'ont pas fonctionné, il y a des fusées là-haut, il y a des bouts de satellites, il y a des choses comme ça. Et donc il y a des risques de collision avec la station spatiale. Il faut savoir que la station spatiale, elle se déplace sur son orbite à 26 000 km/h. Hein. Donc quand vous avez un boulon qui arrive sur la station spatiale, même si c'est à 10 000 km/h, hein, c'est une vitesse relative, heureusement tout le monde va dans le même sens. Enfin, donc il y a des risques de collision et il y a des procédures de sauvegarde où les cosmonautes vont dans les Soyouz pour se prémunir contre une dépressurisation de la station.
Est-ce que les robots, ils ont trouvé des formes de vie étrangères sur les planètes?
Sur Mars?
Ouais, par exemple.
Non. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé. On a trouvé que des matériaux, on a trouvé des composés chimiques, mais on n'a rien trouvé de vie.
Ah, ça sert à rien. Tu veux
Non, vas-y. Allez. Oh, hey, hey, je me suis pas moqué, moi. Pourquoi tu restes?
Attends.
Il n'y a pas de stage, là. Là, c'est... Là, ça...
Non, mais c'est pas ça. Maintenant, on est à combien du stage?